Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, nous faisons une exception à la liturgie romaine que nous essayons d'appliquer aussi strictement que possible en faisant un panachage entre la messe du dimanche après l'Ascension et la messe de la solennité de Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà, qui est fixé toujours à ce dimanche par la Sainte Église. C'est pourquoi vous aurez peut-être peiné à vous y retrouver dans votre misselle. Les lectures sont celles de la messe de Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà. Alors, je rentre tout juste d'un pèlerinage de 3 jours dans le berceau de Sainte-Jeanne d'Arc, qui est si cher à mon cœur de Lorrain, comme vous le savez, et je loue le ciel de pouvoir célébrer aujourd'hui avec vous et dans la foulée de ce pèlerinage la solennité de cette toute jeune femme hors du commun. Vous imaginez bien qu'en parcourant chemins et villages qui viraient clore la vocation de la petite pucelle, en pénétrant dans la maison paternelle, en pénétrant dans les petits et grands sanctuaires où se forgea l'âme de Jeanne, mais aussi son corps, qu'on disait à la fois beau et vigoureux, ce corps qu'elle n'hésita pas à exposer à toutes les affres de la guerre et jusqu'au feu, eh bien, donc, corps et âme, c'est dans ce berceau lorrain que Jeanne, non seulement a vu le jour, mais a vu également l'appel de Dieu très particulier se déployer en elle, et avec cette réponse, tout à l'image de la Vierge Marie, ce fiat de Jeanne d'Arc, qui est chère à notre cœur, à tous de catholiques français, qui devons nous reconnaître dans ce grand exemple de cette petite femme. Les circonstances qui virent la petite Lorraine surgir de l'anonymat pour embrasser la carrière que le monde entier désormais connaît, qui ne connaît pas Jeanne d'Arc, sous toutes les latitudes de notre planète, eh bien, ces circonstances sont assez proches des circonstances du monde actuel. Elles tiennent en un mot fameux que vous connaissez tous, c'est « grande pitié au royaume de France ». Effectivement, le contexte de l'époque, au plan politique, on le connaît, c'était la guerre de Cent Ans. Ce dauphin qui n'en finissait plus de se poser des questions sur son identité pour savoir si, oui ou non, il était le souverain légitime, s'il fallait qu'il monte ou pas sur le trône, et qui était le jouet de toutes sortes de cercles d'intrigants qui, normalement, puisqu'ils étaient pairs de France, auraient dû voler à son secours. Voilà donc pour les circonstances obscures en termes de politique. Quant aux circonstances, quant au contexte de l'Église, il ne valait guère mieux à l'époque, puisque nous avions un pape pris en tenaille entre 2 antipapes. Voyez donc que l'époque de Jeanne n'a rien à envier, en fait, de division à l'époque qui est la nôtre actuellement. Nous sommes dans une situation similaire. Alors, je sais bien que vous allez me répondre, au moins, les Français de cette époque croyaient-ils en Dieu ? Mais je ne sais pas s'il est préférable de croire en Dieu et de sombrer, comme le fit l'évêque Cochon et tant de ses confrères, dans une iniquité abominable, en falsifiant les preuves, en falsifiant les témoignages, en poussant jusqu'à des soudards à tenter de violer la petite Jeanne. Je ne sais pas s'il vaut mieux cela, voyez-vous, être baptisé, confirmé, consacré évêque même et sombrer dans une telle iniquité, ou être des apostats ou tout simplement des athées comme les gouvernants qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui. Je vous laisse libre d'en juger. En tout cas, je crois vraiment que la situation de l'époque n'était guère plus confortable, guère plus enviable que celle d'aujourd'hui. Voyez ? Et je crois que si nous devons... La fête de Jeanne d'Arc tombe très bien, puisque nous pouvons trouver une similitude entre l'époque de Jeanne et notre époque. Et si l'adage dit vrai, cet adage aux mêmes mots, les mêmes remèdes, alors c'est dans la figure de Jeanne d'Arc que nous trouverons de quoi remédier à la crise actuelle, que nous trouverons, nous autres catholiques français, quelques siècles plus tard, de quoi essayer de sortir du marasme. Voyez, je pense particulièrement, évidemment, et j'y ai fait allusion ici, lors des messes dominicales à plusieurs reprises, je pense bien sûr à cette résistance catholique qui croît de semaine en semaine face au plan inique que l'on sait contre la famille. Il faut, pour mener une guerre juste, il faut que nous sachions non seulement raison garder, mais également éclairage surnaturel conservé. C'est pour cela vraiment que je crois que cette perle qu'est Jeanne d'Arc doit être contemplée par nous pour que nous puissions conserver un combat droit et un combat selon les vues de Dieu. Jeanne présente cette caractéristique d'abord de n'être ni pacifiste. Il y a parfois cette tendance parmi certains catholiques à rechercher la paix à tout prix, tout en ayant devant les yeux la vérité quant au droit naturel, par exemple, quant à la volonté de Dieu sur le couple humain et la famille. Certains sombrent dans une sorte de pacifisme. Jeanne n'était pas pacifiste, parce qu'elle savait trop que la paix, selon la définition de saint Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Pour qu'il y ait la paix, encore faut-il qu'il y ait l'ordre, qu'il y ait la justice. Lorsqu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et nous n'avons donc pas à aspirer à cette paix factice qui règne en Europe depuis quelques décennies, qui est en réalité une guerre larvée contre le droit naturel, contre la personne humaine, et bien sûr, mais depuis plus longtemps, contre les lois de Dieu. Jeanne, donc, n'est ni pacifiste, j'en veux pour preuve l'armure dont elle était parée et l'épée qu'on lui remit, mais elle n'était pas non plus belliqueuse. Jeanne le dit elle-même lors de son procès, « J'aime 40 fois mieux ma bannière que mon épée. 40 fois mieux ma bannière que mon épée. » Vous voyez que Jeanne se ceint de son épée, mais elle aime d'autant plus cette bannière frappée des saints noms de Jésus et de Marie. C'est déjà, je crois, le premier mot d'ordre qui doit être le nôtre dans la mêlée. Ne soyons pas pacifistes, certes, ne soyons pas non plus belliqueux. Bel exemple de Jeanne, et grâce qu'elle pourra sans doute nous gagner du ciel aujourd'hui si nous la supplions de garder ce cap-là. Jeanne d'Arc n'est pas non plus mue par sa volonté propre. Je crois qu'il y a dans tout tourment, dans tout combat que nous menons, nous autres catholiques, la bonne vieille nature humaine qui est affectée du péché et qui est recroquevillée sur elle-même, qui cherche en permanence, sous couvert de bien, sous couvert de remplir la mission que Dieu veut nous confier, en réalité, cette bonne vieille nature humaine pécheresse, que cherche-t-elle? Sa volonté propre. C'est-à-dire que nous cherchons à remporter la mise contre ce gouvernement inique, eh bien, selon l'aune de notre nature humaine, nos petites forces naturelles. Nous croyons bien sûr que nous allons restaurer un régime tout à fait formidable, que nous couvrons, que nous saupoudrons de régime voulu ou permis par Dieu, mais qui en réalité est un régime selon nos vues. Eh bien, Jeanne nous offre l'exemple d'une parfaite docilité, non pas à sa volonté propre, parce que si elle s'était écoutée, cette petite Lorraine, elle serait restée dans sa contrée à s'occuper de filets et à s'occuper de ses vaches, et non pas de ses moutons. On nous a bien rappelé qu'elle n'était pas du tout bergère, peu importe. Ça, c'est pour les dîners, pour apparaître un peu plus lettré que nous. Bref. Alors, là, dans l'épître que nous avons lu, que je vous ai lu à l'instant, que trouvons-nous? Et ce n'est pas un hasard, la Sainte Église a choisi les textes à dessein, bien sûr, comme d'habitude. Nous trouvons un extrait du livre de la Sagesse. « Je décidais » et on croirait entendre Jeanne, du moins, qu'il était légitime que Jeanne reprît ces termes à son compte. « Je décidais de prendre la Sagesse pour compagne de ma vie. » C'est bien cela. Jeanne, qui pendant 3 ans écoute les voix, sachant qu'elle serait cette sagesse ou ces voix, ma conseillère aux jours heureux, ma consolation dans mes soucis et mes peines. Jeanne ne veut absolument pas accomplir ses desseins, ses aspirations, toutes légitimes qu'elles soient. Elle veut accomplir uniquement la volonté de son Seigneur, qui est roi du ciel et qu'elle qualifie de vrai roi de France. Cette épopée de Jeanne, qui est fameuse entre toutes, et que la France a vécue grâce à Sainte Jeanne d'Arc, témoigne du soin que Dieu met à pourvoir au bien de ceux qui l'aiment. La providence divine se manifeste d'une façon particulièrement claire à travers l'épopée de Jeanne. Vous voyez, dans cette figure de Jeanne d'Arc, vole en éclat une fausse conception de l'histoire, qui nous contamine parfois, qui règne bien sûr dans ce monde athée, c'est-à-dire en France aujourd'hui, chez ceux qui la gouvernent et chez ceux qui en sont les citoyens, mais qui risque également de nous contaminer. Très souvent, nous sombrons dans ce travers étrange d'un paradoxe, une alchimie un peu paradoxale. Il y aurait à la fois une sorte de sens de l'histoire, mais qui serait parfaitement immanent à la réalité naturelle. L'histoire irait, alors nous ne croyons pas, nous autres catholiques, à un quelconque progrès. Nous ne sommes pas des lumières, vraiment. Mais nous ne pouvons nous empêcher de croire en un certain développement, quoi qu'il en soit, et quoi que nous fassions, de l'histoire de notre pays. il irait vers sa dégénérescence, il irait vers sa ruine. Ah, ma bonne dame, tout est fichu, tout est capoute, il ne sert même plus à rien de sortir dans la rue et même de prier, tout est capoute. Et en même temps, nous avons la velléité de croire, comme nos contemporains, que, à la force de nos poignets, de temps en temps, nous pourrions, en dressant quelques barricades ou en descendant dans la rue, changer totalement le cours des choses. Vous voyez cette espèce d'atmosphère paradoxale, de conviction totalement erronée et paradoxale, qui nous immobilise. Croire que tout est joué, qu'un destin court dans l'histoire, de façon purement immanentiste, et en même temps, cette volonté de temps en temps nous arracher à ce déterminisme en mettant quelques bons coups de poing par-ci par-là ou en sortant quelques bannières à la face de ceux qui nous gouvernent. La conduite de Jeanne est tout autre. Et c'est dans cette conduite, dans cette logique-là qu'il faut entrer. Jeanne l'explique en un mot, les hommes bataillent, Dieu donne la victoire. C'est très clair. Ce qui prime dans notre bonne histoire de France, qu'est-ce que c'est? C'est la providence divine. Et l'exemple de Jeanne est particulièrement frappant. Ce sont des voix qui la guident. C'est si Jeanne a su se montrer si vaillante capitaine, elle qui n'avait jamais approché ni de près ni de loin un destrier, une armure ou un quelconque glaive, ni quelque corps de troupe que ce soit, voilà qu'elle se révèle la meilleure des capitaines. Mais le secret est simple. C'est la providence qui la guide. Saint Michel Archange, bien sûr, qui lui explique comment mener des troupes. Aussi curieux que ça puisse paraître, et son doux Seigneur qui, en permanence, lui donne rien moins que des ordres de mission. Et en même temps, donc cette providence divine, dont Jeanne est l'instrument le plus docile qui soit, et dont elle est convaincue qu'elle mène l'histoire, ne pousse pas Jeanne à s'abandonner de façon totalement passive, dans un quelconque quiétisme, mais au contraire, stimule Jeanne, qui sait que Dieu attend sa coopération. Ma fille, j'attends de toi la même posture que, j'allais dire, ta grande ancêtre, la Vierge Marie. Toute la création comptait sur le fiat de Marie à Nazareth. C'est exactement ce qui se passe en Lorraine. Toute la France attend qu'une petite fille accepte de répondre à la mission que Dieu lui a confiée. Il y a ces épousailles entre la providence divine qui veille, Dieu qui mène les choses sans aucun déterminisme, et en même temps, les créatures humaines à qui Dieu a fait don, parfaite magnanimité de Dieu, insondable dessein de miséricorde qui permet à la créature d'agir vraiment et d'influer véritablement sur l'histoire. C'est exactement cette conduite qu'il nous faut adopter aujourd'hui, mes frères. Il n'y a aucun déterminisme dans ces lois iniques qu'on tente de nous imposer. L'histoire est une sorte d'épousaille, une somme, si l'on veut, entre l'action divine, entre la providence divine qui est bien là. Les moyens divins ne font pas défaut, mes frères. Et ce, depuis toujours. Dieu est là, qui veut nous concéder tous les moyens pour restaurer un régime plus légitime, de quelque nature qu'il fût. Et en même temps, nous avons le devoir grave de nous mobiliser, parce que Dieu attend, lui qui veut nous donner la victoire, que les hommes bataillent, comme le disait Jeanne. Vous voyez, ce qui permet à Jeanne de gagner l'estime des personnes de son temps, ces qualités qui éclatent en elle, ce sont ces mêmes qualités qui vont persuader nos contemporains un peu indécis de la légitimité de notre combat, de la légitimité du droit naturel et du droit divin que nous revendiquons. Quelles sont-elles ces qualités? Première qualité, c'est étonnant parce qu'on se dit que ça n'a rien à voir avec la politique ni avec quelconque destinée de la nation, la pureté. Ce qui a conquis le cœur des gens qui l'écoutaient, de ses compagnons d'armes qui n'étaient pas vraiment des enfants de cœur, c'est sa très grande pureté. Jeanne était liée par un vœu que l'on sait maintenant, un vœu de virginité, et cette virginité éclatait sur le visage et dans les manières de Jeanne, même lorsqu'elle était revêtue de la cuirasse. Cette grande pureté de Jeanne, certains capitaines l'ont confessé lors de son procès, et notamment de son procès de réhabilitation, 25 ans après sa condamnation, cette très grande qualité de Jeanne a fait que ses capitaines ont été ébranlés. Rien ne prédisposait à un laïr, ce gascon aux mœurs un peu rudes et qui était tout tourné vers les femmes et vers le vin, rien ne prédestinait un laïr, et qui était un homme de guerre, a écouté cette petite pucelle de Lorraine. Ce qu'il a conquis, le dit lui-même, c'est la grande pureté de Jeanne. Ce ne sont pas ses miracles, ce ne sont pas ses faits d'armes, elle n'en avait aucun à son compte lorsqu'il la rencontra. Ce fut la pureté de Jeanne. Première qualité de Jeanne, donc, qui doit être la nôtre dans le combat d'aujourd'hui. Ce qui doit éclater à la face de ceux qui veulent la mort de la famille, c'est notre pureté. Et pour l'instant, je crois vraiment pouvoir dire que notre témoignage porte. Alors, tentons de rendre nos mœurs encore plus conformes à l'apparence que nous voulons bien donner, de manière à être encore plus persuasifs. Nous sommes dans un monde gagné par l'érotisme et par le sensualisme. Mes frères, nous singulariserons et nous attirerons les gens à nous par notre grande pureté. Évidemment, la pureté ne suffirait pas, en soi, elle ne sert à rien. Il faut y joindre la foi. Jeanne vivait d'une intime union au Seigneur Jésus. Vous savez sans doute que on a considéré dans son procès de réhabilitation que même si Jeanne d'Arc avait été captive pendant de longs jours, de longues semaines, on estime qu'elle a tous les jours pu accéder à la communion. Non pas qu'un prêtre vint lui donner la communion, mais grâce à la communion spirituelle. C'est-à-dire l'union intime que Jeanne avait avec son Seigneur. C'est évidemment cette qualité de Jeanne qui doit être la nôtre aujourd'hui. Nous ne gagnerons rien du tout, nous n'attirerons personne à nous et rien ne sera meilleur qu'avant si nous le vivons intimement unis au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais pour conclure simplement attirer votre attention sur un mot de Benoît XVI. Benoît XVI a, vous le savez sans doute, pour les avoir lus, ses catéchèses, puisque voilà, un bon fidèle que vous êtes, je ne vous apprendrai rien. Benoît XVI s'est livré à une série de catéchèses sur les pères de l'Église, sur les docteurs de l'Église et sur les saintes femmes. Il a livré une catéchèse sur Jeanne d'Arc. Que dit-il à propos de Jeanne? Il dit que cette femme est semblable aux femmes, aux saintes femmes qui restèrent seules fidèles au calvaire. Alors que les apôtres, à l'exception de Saint Jean, c'est-à-dire cette hiérarchie de l'Église, ces chefs de l'Église qui auraient dû servir leur maître et lutter contre ses ennemis, étaient absents du Golgotha, qui était là au pied de Jésus, au pied de la croix, les Écritures en témoignent, les saintes femmes. Jeanne est comme ces saintes femmes qui est au chevet de son Seigneur, bien sûr, mais également d'une partie de son corps mystique qu'est le royaume de France. Et Jeanne ne défaille pas. Nous avons cette fonction, nous également, vous fidèles, et même moi prêtre, c'est-à-dire clerc de second rang, si l'on veut, de tenir, quoi qu'il en soit, de la conduite de notre hiérarchie. Que nos évêques, tels cochons, heureusement il n'y a quand même plus trop de cochons dans les rangs de l'épiscopat français aujourd'hui, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Nous avons une hiérarchie qui n'a pas toujours le courage qui conviendrait. Ne jetons pas la pierre, Jeanne, ne jetez pas la pierre à sa hiérarchie, mais soyons là pour nous substituer à cette hiérarchie qui se tait trop souvent. Soyons là courageux, persuadés que le sensus fidei nous est concédé par Dieu, c'est-à-dire la grâce de témoigner de la vérité. Alors que les docteurs de la foi que sont nos évêques ne sont pas à la hauteur, très souvent, à quelques exceptions que j'ai déjà nommées en chaire, mais que vous connaissez parfaitement, eh bien, nous n'avons pas à avoir peur et nous avons le devoir grave de nous substituer à eux dans ce témoignage pour que la vérité triomphe dans ce combat pour la famille, pour la vie, pour la vérité. Et vraiment, je terminerai cette conclusion, comme à mon habitude, vous savez que j'ai des conclusions à plusieurs tiroirs, mais oui, j'en vois qu'il sourit. C'est cette place particulière qui vous est dévolue à vous, les femmes. Jean-Paul II, vous le savez, avant sa mort, quelques mois avant sa mort, venu en pèlerinage à Lourdes, dans un sermon magnifique, où c'est une sorte de testament spirituel, dont le thème était « Soyez libres ». Mais libre non pas comme des libertaires, libre de la liberté dont lui, Jean-Paul II, avait vécu, contre le communisme, mais également contre le modernisme, Jean-Paul II exhorte les fidèles à être libres. Et il donne une place particulière aux femmes. Soyez les sentinelles de l'invisible. Sentinelles de l'invisible, c'est-à-dire, soyez des témoins, vous les femmes, parce que vous en avez l'étoffe, parce que telle est votre nature singulière. Vous avez le devoir de témoigner de toutes ces vérités quant à la vie, quant à la famille, voilà, toutes ces vérités qu'aujourd'hui on bafoue. Certaines femmes catholiques ne comprennent pas très bien la nécessité qu'elles auraient à s'engager dans la cité, estimant que, puisqu'elles s'occupent de leurs enfants, ce qu'elles font fort bien, d'habitude, et puisqu'elles s'occupent de cette, voilà, cette petite communauté domestique, elles laissent à leurs époux le soin de s'occuper de la chose publique. Jean-Paul II les détrompe. Et l'exemple de Jeanne les en détourne normalement. Mesdames, mesdemoiselles, vous avez le devoir d'être dans le monde d'aujourd'hui témoin que l'essentiel n'est pas visible pour les yeux, témoin par votre longanimité, témoin par votre connaturalité avec la vie et avec la famille, vous avez à descendre dans l'arène. Et pas seulement pour porter des banderoles, mais bien pour vous engager par toutes les voies qui vous sembleront utiles ou possibles simplement, pour vous engager concrètement dans le combat. Voilà ce que je voulais vous dire en cette solennité de Sainte-Jeanne d'Arc. Je recommande évidemment notre chapelle à la protection de la petite Pucelle de Lorraine, ma compatriote, et je lui demande de nous obtenir cette grâce de la fidélité à Dieu, notamment dans ce qui concerne les affaires politiques de ce royaume dans lequel il y a grand pitié, mais sur lequel Dieu a de grands desseins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.